François Lochon, le photographe et le businessman de Gamma. François Lochon est né le 16 mai 1954 à Trégny, dans la Marne, non loin de Reims. Il est aujourd'hui le patron et unique propriétaire de l'agence de presse Gamma Raffo. En 2016, à l'occasion d'un projet d'exposition pour les 50 ans de la création de l'agence Gamma, je le rencontre. L'exposition n'aura pas lieu et cette interview restera dans les tiroirs d'Aloy. Mais 5 ans plus tard, les propos de François Lochon n'ont pas vieilli. En avril 2010, il avait repris au tribunal de commerce les actifs d'une multitude de fonds photographiques rassemblés par Hachette Filipacchi, mais que le groupe Lagardère n'avait pas su gérer. À peine acquis au tribunal de commerce, François Lochon redresse la barre et depuis 10 ans affiche un résultat financier positif. François Lochon est une personnalité controversée dans le monde du photojournalisme. Il a des admirateurs, mais aussi des détracteurs. Il faut dire qu'il a le verbe haut en couleur, allant parfois jusqu'à l'injure. Mais comme il le dit, se faire détester par des cons, ce n'est pas grave. Dans cette interview, François Lochon évoque son arrivée à Gamma en 1975, son entrée dans le capital de l'agence et son expérience de direction sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais c'est une autre histoire. Dernière chose, François Lochon n'est pas un ami, bien qu'il m'ait adressé autant de courriels flagorneurs que injurieux, mais nous nous tutoyons suivant l'usage de la profession, en tout cas au siècle dernier. Alors François, comment entends-tu parler de Gamma à Reims ?
En 1969, je vois sur la façade d'un kiosque un magazine qui s'appelle Reporter Objectif. C'était le numéro 1. J'étais fasciné de photos déjà à l'époque. J'avais 15 ans. J'achète ce magazine. Et à l'intérieur, il y avait un reportage qui célébrait les 2 ans de l'agence Gamma, avec 4 portfolios, Caron, Bureau, Vassal et Depardon. Je feuillais de ces 10-12 pages. J'ai encore le magazine d'ailleurs, je l'ai conservé toute ma vie. Oh, c'est assez formidable la vie de ces mecs. Et franchement, dans ma tête, je dis, quand je serai grand, je travaillerai avec eux. C'est drôle, quand je serai grand, tu vois, on a 15 ans. Et puis je l'ai fait. C'est là que j'ai commencé à prendre contact avec l'agence, moralement, intellectuellement, c'était tout. Je n'ai absolument pas travaillé avec eux du tout à l'époque. J'ai terminé mes études pour service militaire et je suis venu à Paris avec un petit portfolio. Et je suis allé frapper à l'agence. On m'a gentiment ouvert la porte. C'était juste après la scission avec Sigma qui avait eu lieu en 73. Et Gamma reconstituait des équipes de jeunes photographes et était très ouvert et donnait sa chance à tous les gens qui la tentaient. C'est comme ça que je suis arrivé et c'est comme ça que Floris de Bonneville m'a fait faire ma première manifestation qui était à la Régie Renault, à l'île Seguin. Il y avait un petit truc. Je suis allé faire 3-4 photos. Et miracle, la semaine d'après, j'avais un quart de page signé Lochon Gamma dans Le Nouvel Observateur. Là, on est début 75. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout ce que les photographes du staff refusaient, c'est-à-dire de nombreuses choses, puisque les stars du staff n'étaient pas très très courageuses.
C'était qui à l'époque, ces stars du staff ?
Oh, j'ai suffisamment d'ennemis, on ne va pas rajouter sur la liste. Ils se reconnaîtront. Donc il y avait plein de reportages qu'ils refusaient de faire et qu'on donnait aux petits jeunes, comme moi qui passais. On les était 3-4. Il y avait Benoît Gisembert aussi qui grenouillait, etc. Et peu à peu, j'ai fait les choses plus importantes et je suis parti à un petit sujet à l'étranger en Norvège. Et puis après, c'était le début des grandes histoires. C'était très simple. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour. Il faisait chaud là-bas. Je suis resté, je me suis assis. J'ai attendu en hiver et puis j'ai travaillé. C'était comme ça qu'on pouvait débuter dans la photo il y a 40 ans.
Et donc ensuite, des grandes histoires, il y en a eu. Parce que quand même, tu as eu 3 World Press, un Grand Prix Paris Match. Donc parle-nous un peu quand même de tes grands sujets de photographe.
Je crois que c'est une école. Moi, j'ai appris à faire je crois, de bonnes photos entre Bastille et République et au Conseil des ministres. Quand on est bon en France, on est bon au bout du monde, et pas l'inverse. Il y a des gens qui croyaient qu'il fallait partir à l'autre bout de la planète pour apprendre ce métier. C'est une politique, c'est respectable, mais ça n'a pas été ma philosophie. Moi, j'ai appris peu à peu en France à faire plein de petits reportages. J'ai fait beaucoup de merde, beaucoup de trucs invraisemblables, et j'ai appris. Et puis un jour, j'ai fait un petit scoop à Paris, la photo d'un terroriste qui s'appelait Abou Daoud, qui était l'auteur de la tuerie des Jeux Olympiques à Munich. Bon, j'étais le seul à le photographier en France. Ça a été... c'était bien. C'était le début de belles histoires. Et ensuite, j'ai voyagé, et puis il y a eu des grandes images à gauche, à droite, et puis j'ai tout fait. Je suis un photographe généraliste. Moi, je photographie tout, du pape au pingouin. Pour moi, c'est le même combat. Il n'y a pas de souci. Un tremblement de terre, une guerre, une première à l'Olympia. Je suis un généraliste. Je ne suis pas un noir et blanc minimaliste. Tu vois, je m'en fous. Moi. La vie est en couleur. Je regrette ces photographes qui, 30 ou 40 ans après, disent « Ah non, non, moi, je n'ai jamais fait de photo couleur. » J'en connais ici qui m'ont dit « Ah non, 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 moi, je ne veux pas récupérer mes photos couleurs. » Tu peux les jeter. Et des grands noms. Donc, tu vois, il y a une espèce de... Je ne sais pas. Ça me semble fou, mais bon, c'est comme ça.
Tout homme qui est parti en reportage sait que... Bon, il y a des reportages qui ne laissent aucune trace, et puis il y a des reportages qui vous poursuivent toute la vie, en bien ou en mal. Donc, dans ces reportages qui sont un peu emblématiques, tu dirais lesquels ?
Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est la guerre en Irak-Iran. J'étais avec Jacques Pavlovski, mon ami de Sigma, et une nuit, on s'est retrouvés face à des mômes, qui avaient 12, 13, 14 ans, la gueule dans le sable du désert, dans la boue des marais, qui était complètement hagard, en pleine nuit. Et puis le lendemain, on a vu des dizaines de milliers de morts, vraiment des dizaines de milliers de morts, des centaines de kilomètres avec des cadavres à gauche, à droite. Et ces mômes étaient des rescapés de cette bataille des marais. Et ça m'a vraiment traumatisé pendant assez longtemps. Parce que ces mômes auraient pu être les miens. Et ça m'a vraiment... m'a marqué.
Et dans les bons souvenirs, alors ?
Oh là là, il y en a beaucoup trop. Là, je suis bien marré avec le pape. C'était formidable de voyager avec lui dans son avion. En Antarctique, c'était magique de vivre avec les pingouins. J'ai adoré photographier tous les pays du monde. Dans la joie, il y a beaucoup de choses gaies sur Terre. Beaucoup. L'Argentine, c'était merveilleux. Le Pérou, Israël, c'était merveilleux d'aller à Jérusalem, dans la vieille ville à l'époque où c'était calme. Qu'est-ce qui m'a plu ? Tout. J'ai trop de souvenirs. La Chine, c'est magique. La Chine, juste après la mort de Mao, avec tous ces gens en vert et en bleu, quand je vois la différence 30 ans plus tard à Shanghai, j'ai l'impression d'avoir changé de galaxie directement. Bon, j'ai plein de bons souvenirs.
Et néanmoins, donc, tu te retrouves quand même à la direction de l'agence Gamma. Par quel hasard ? Enfin, d'abord, tu te retrouves associé. Comment tu te retrouves associé ?
Alors là, nous sommes en 1978. Je suis à Beyrouth pendant la guerre civile avec Raymond Depardon. Et un soir, pendant les bombardements, alors qu'on avait mis notre matelas sur la fenêtre pour se protéger des éclats d'obus, il me parle contre le mur. On est adossé, il me dit, tu sais, il y a des actions qui vont être à vendre à l'agence, puisque moi je quitte, Raymond Depardon quittait Gamma pour rejoindre Magnum. Gilles Caron, qui avait disparu depuis 8 ans, était officiellement considéré comme décédé. Donc il fallait trouver un successeur à ses actions. Et un autre actionnaire qui s'appelait Hugues Vassal, qui était vendeur également. Il me dit, il va y avoir un gros mouvement de capital, tu devrais acheter des actions. Et je lui pose la question, mais vraiment, à quoi ça sert d'acheter ça ? C'est quoi être actionnaire ? Et là, il a cette réponse absolument admirable. Il me dit, mais François, tu vas acheter ta liberté. Alors tu vois, quand tu entends ça avec les obus qui pètent à gauche, à droite, derrière, je prends ça dans ma tête, tu vois. Et puis je rentre en France, c'était l'été 78. Les choses se sont bien enchaînées et j'ai pu acquérir auprès de la famille Caron les 25% d'actions de Gilles. C'est comme ça que je suis devenu actionnaire à 24 ans de l'agence. Mais je comprenais pas très bien ce qui se passait. J'ai acquis ça pour une misère, une poignée de figues. Enfin, je veux dire, c'était vraiment ça, aucun, rien, genre 20 ou 25 000 euros, tu vois, c'est ridicule. Mais c'était ma liberté, effectivement.
Et alors ensuite, tu as une vie d'associé et tu deviens même directeur, président, ou je sais.
Oui, enfin, j'ai pris la direction de l'agence 15 ans plus tard, lorsqu'elle était en panade. Mais je ne me suis jamais intéressé à la direction de l'entreprise. C'était Jean Monteux qui a, pendant 15 ans, pris ça en main. J'étais très loin de la direction. Mais j'étais libre, je faisais ce que je voulais, sans jamais abuser. C'était contrairement à ce que maintenant se passe dans pas mal de sociétés. Nous, on n'a jamais eu de téléphone de fonction, on n'a jamais eu de voiture de fonction, jamais de note de frais, de rien. On était photographe comme les autres. On n'a absolument tiré aucun avantage financier du fait d'être associé. Mais j'avais un peu plus de liberté, c'est sûr.
Puis 15 ans plus tard, alors, l'agence a des hauts et des bas, elle en a eu plusieurs, comme toutes les agences. Mais il y a un moment où tu te retrouves à la direction.
Oui, parce qu'il n'y avait plus personne capable de diriger, il n'y avait plus d'argent. Donc j'ai remis toute ma fortune, déjà à l'époque, dans fortune, c'est un grand mot, tout ce que je possédais. J'ai emprunté d'ailleurs, avec Franck Collomb. Nous étions deux à reprendre la boîte. On est en 93. L'agence a été vendue en 1989 à un fonds d'investissement anglais qui se sont majestueusement plantés. Donc 3 ans plus tard, on me dit, François, tu n'avais peut-être pas tout à fait tort, est-ce que tu veux venir essayer de sauver la baraque? Moi, j'étais parti sur une autre vie, sur une autre planète. Je suis revenu et j'ai repris la boîte avec Jean-Claude Franck Collomb pendant 2 ans, pas tout à fait 2 ans. J'ai redressé et puis ça a été encore d'autres crises sociales, d'autres crises avec les photographes, j'en ai eu marre. J'ai démissionné et j'ai dit, démerdez-vous, moi j'en ai assez de vos conneries, quoi.
Donc tu n'étais plus là quand l'agence a été vendue à Hachette?
Si, mais je suis reparti et revenu. Enfin, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, moi. Mais la direction, pendant 2 ans, a été exercée par Nicole Benoît et Jean-Claude Franck Collomb et d'autres personnes. Et ils sont plantés aussi et on m'a encore rappelé. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être un infirmier du SAMU, tu vois, un réanimateur de l'agence. Bon, ça a marché et puis j'ai remis cette boîte sur pied avec un merveilleux bonhomme qui s'appelle Rémy Gaston-Dreyfus, un avocat de grand talent de négociateur qui a calmé le jeu pendant 2 ans. Et nous avons cédé la boîte en fin de course parce qu'on arrivait pas. On n'arriverait pas à s'en sortir financièrement. Donc on a demandé l'aide de Lagardère, d'Hachette, qui sont venus, qui ont été extraordinaires, qui nous ont beaucoup aidés, mais qui, c'était mission impossible. Je pense que les agences étaient déjà condamnées par leur conception même, qui était beaucoup trop vieille, et par l'obscurantisme des syndicats, des comités d'entreprise et du personnel bloqué sur des intérêts acquis, aucune évolution possible. Donc c'est ça qui a tué la boîte. C'est ça qui a tué la presse photo en France. C'est pas du tout la crise. La presse marche très 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 bien. Les journaux se vendent. Il y a peut-être moins d'argent qu'avant, mais ça continue encore à exister. Tout ça, c'est du pipeau. C'est le manque d'adaptation qui ont créé la disparition de Gamma et de Sigma et de SIPA et de toutes les autres agences. C'est pas du tout la crise. C'est un leurre. On est en 2016. Getty, numéro 1 mondial, fait pratiquement 3 milliards de chiffre d'affaires par an. Il les vole pas, cet argent. Il existe. C'est donc le marché de la photo. Il y a du pognon, mais il ne vient plus dans notre poche. C'est terminé l'image franco-française de on est les meilleurs du monde, sans nous, vous n'existez pas. Ah 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 ah, ils n'en ont rien à foutre. On n'existe plus et la presse continue à tourner. Vous voyez, cette espèce de la spécificité française de l'image de presse, c'est du pipeau.
Et donc, le groupe Lagardère, Hachette Fipaki, a lui aussi cédé au groupe Heidi. Et on s'est retrouvé un jour au tribunal en avril 2010. Et là, il y avait 4-5 repreneurs, autant que ma mémoire soit bonne. Ils ont tous déclaré forfait. Et tu es le seul, à la barre, à avoir accepté de reprendre l'ensemble des actifs de ce groupe malgré qu'il pesait une petite menace sur le fond qu'on appelle une fiducie, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'était quand même assez étonnant. D'ailleurs, le président du tribunal, j'y étais, a dit « Et là, vous êtes sûr, malgré la fiducie, vous reprenez ?» Et t'as dit « Oui ». Et depuis ?
Alors, j'aimerais faire, si tu permets, un retour en arrière quand même sur la période Hachette qui est fondamentale. On est en 99, la presse va mal. À l'époque, j'ai quand même reçu des menaces et des lettres de photographes qui m'interdisaient de numériser leurs photos, sous prétexte que c'était un changement de nature, il fallait changer le contrat et patati patata. On est mort à cause de tous ces cons, moi j'ai pas peur de le dire. Hein. Bon, se faire détester par des cons, c'est pas grave, tu vois. C'était terrible. On n'a pas eu le droit de numériser les archives. On était en 97-98, c'était le début de l'Internet. Il fallait absolument, on ne pouvait plus vendre un tirage, ça n'existait plus. Il fallait dématérialiser. Les photographes se sont suicidés. Ils avaient un très beau jouet, c'était pas le leur, ils ont préféré le briser. Et je voudrais aussi rajouter que cette agence a été créée par 4 photographes et a été détruite 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, par... aussi pareil, 3-4 photographes. C'est terrible de voir que si peu de gens, avec autant de haine, foutent par terre un jouet qui faisait vivre 5000 personnes. Quoi. Parce qu'il y a eu 5000 photographes dans cette agence. C'est quand même considérable. Donc on est en 99, face à ces mutations refusées par le personnel. Et c'est commun dans ce pays. Hein. Dès qu'on change quelque chose, alors là, c'est tout de suite les émeutes et les manifestations. Il faut s'adapter. C'est la seule caractéristique de l'intelligence sur la planète. Les animaux qui ne s'adaptent pas disparaissent. Et les hommes qui refusent également une nouveauté, apprendre, n'ont pas d'avenir. Et la preuve est que les 3 agences en sont mortes. Donc, nous sommes en 99. On va faire court. Donc, Hachette décide de nous aider. Et puis, ils mettent de l'argent, beaucoup d'argent. Cette plaisanterie va leur coûter 140 millions d'euros. 140 millions d'euros en l'espace de 8 ans. Ils ont tout fait pour sauver cette boîte. Mais c'était impossible. Le social est devenu trop lourd, des procès de fausses pertes de photos, des vols imaginaires, enfin on a tout vécu, c'était dramatique, les comités d'entreprise bloqués, enfin on a vécu socialement, enfin on achète, fait face à des trucs de folie. En fait il y a quelques rigolos qui se sont dit on va prendre le maximum de pognon à travers des procès, allons-y, achète, ils ont du pognon, on y va. Et il y a un moment achète a dit stop, parce qu'il faut arrêter ces bêtises. Ils avaient mis des gens pas toujours très compétents pour la presse. Alors c'est sûr que avoir des avocats, des hommes d'affaires, des financiers, des énarques, des chefs de service très compétents dans leur domaine auparavant sans doute, mais pas du tout adapté au microcosme de la presse photo. C'est très, très, très fermé. C'est un village. Il faut être né là-dedans pour comprendre les aléas. Et eux, ils n'ont pas compris ça. Ils avaient des réflexes d'entreprise, des réflexes de cabinet, des réflexes de haut de bilan. Je ne sais même toujours pas ce que c'est qu'un haut de bilan, tu vois. Mais on parlait que de ça, de haut de bilan, de rapport, de vente, de ci, de ça. Ils ont voulu se lancer sur le marché russe. C'était... pays émergents, tu vois, des conneries sans nom, ça veut dire c'est n'importe quoi. Ils savaient pas, donc, mais ils croyaient apprendre au personnel comment ça va fonctionner. Alors il y a eu double problème, problème de direction et problème de personnel bloqué contre une direction obtuse, ça a donné le désastre, 140 millions de pertes. Voilà, ensuite ils ont passé le bébé à un groupe de... Comment on appelait ça, les repreneurs, pas des repreneurs, des sauveurs d'entreprise, là, tu te souviens de ça? Les redresseurs de tort. ces gens assez inefficaces aux directions, on a eu les patrons voyous. Oh, c'était un drame invraisemblable, ils ont gaspillé 23 millions en 2 ans, et puis un dépôt de bilan, quoi. Et là, on m'appelle, quand je dis on, c'est quelques personnes de l'agence. Je suis en province, moi je mène ma vie après une longue et douloureuse maladie auquel j'ai échappé, puisque je peux vous parler 10 ans après. Ils disent, viens à Paris, on est dans la merde, là on va partir en dépôt de bilan. Donc je suis monté avec une petite valise pour 15 jours, et puis ça fait 8 ans que je suis là. J'ai racheté au tribunal de commerce, dans des conditions très... Très sympathique finalement. Et c'est vrai qu'il y avait quatre repreneurs qui ont soit été déclinés par le tribunal, soit qui ont refusé, puisqu'en fait, ce n'est pas moi à qui on propose en premier de reprendre l'agence, c'est Abaca. Mais devant le risque de la fiducie, qui était quand même assez élevé.
Oui, la fiducie étant enfin, en fait une garantie sur le fonds qui...
Alors, j'ai toujours pas compris vraiment ce que c'était cette fiducie. Ils avaient fait des faux en écriture, des comptes rendus erronés, etc. Enfin bref, elle est pas valable en termes financiers, juridiquement non plus. C'est toujours pas dénoué. Ça fait 6 ans que ça dure, cette histoire. On est encore devant les tribunaux là-dessus. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de réalité économique là-dessus. J'ai pris le risque, parce que de toute façon, qu'est-ce que c'était un risque? Ok, mais bon, moi, gamin m'avait tout donné dans la vie, et j'ai estimé que je pouvais tout lui rendre, parce que c'était un échange, c'est un bon karma. J'adore le bouddhisme tibétain, je trouve ça très très beau. La philosophie du Dalai Lama est très agréable, et j'aime bien. Donc j'ai reçu, et bien maintenant je vais donner. Et je pense que j'ai bien fait de prendre la boîte avec tous les risques qu'il y avait. Puisque nous, on va bien, et que ben, je pense qu'en face, ça ne va pas si bien que ça. Hein.
Et aujourd'hui, la boîte, comme tu dis, elle fait quoi comme chiffre d'affaires? Elle est bénéficiaire, j'ai vu, en 2014-2015, je crois.
Oui, depuis le premier exercice, évidemment, a été déficitaire, parce qu'il fallait nettoyer, mais depuis, on gagne de l'argent. Et tout cet argent, entre guillemets, enfin, tous ces bénéfices d'exploitation sont consacrés au futur de l'entreprise. C'est-à-dire que là, dans les 700 mètres carrés de stockage à l'agence, on a, je sais pas, 25-30 millions de photos qui ont de la valeur. Mais encore faut-il les mettre sur Internet. Donc on numérise à fond la caisse. On est entre 700 et 800 photos par jour, ce qui est considérable. C'est une production d'agence il y a 25 ou 30 ans. C'était à peu près ce que diffusait Gamma durant les grandes années. Mais maintenant, ce sont des images d'archives. Et comme nous sommes les seuls dans le monde à investir autant d'argent, ben on vend nos photos. Puisque des photos très simples, genre, je sais pas, Georges Seguy, lorsqu'il est mort, personne n'avait numérisé les photos de Seguy, alors que tout le monde en a. L'AFP en a, AP, je te parle pas des Sigma, des SIPA, tout le monde a des photos, mais personne n'avait numérisé Georges Seguy. On a fait quelques petites ventes. Bah ouais, mais c'est ça, l'argent, c'est des petites ventes plus des moyennes ventes. Et c'est ça qui valorisera dans les décennies à venir, Gamma, c'est ces milliers de photos qu'on met sur le marché tous les ans. On a 80 000 par an environ maintenant, en rythme de croisière. L'agence ne gagne pas d'argent, elle fait des bénéfices d'exploitation qu'elle réinvestit automatiquement.
Merci beaucoup, François. Ce podcast inédit a été enregistré par Michel Puech à Paris dans les locaux de l'agence Gamma Rafo le 26 septembre 2016. Montage, mixage, réalisation de Jean-Louis Vinet. Photographie Geneviève Delalo. C'est un podcast produit et diffusé par Aloy. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur www.a-l-oeil.info au singulier. Et bonne écoute et à bientôt.